Mola, archive sonore.
Alors, nous sommes en retard, Philippe Solers, paraît-il. Le public s'impatientait, paraît-il. Donc, on ne va pas perdre de temps en présentation. Vous êtes ici, dans votre ville, chez vous, tout le monde vous connaît. Et on va entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire, on va parler de ce dernier livre, Le Cavalier du Louvre, Vivant Denon, qui paraît chez Plomb, qui est un ouvrage important, presque 300 pages. Et je voudrais que vous nous disiez tout de suite... Ce Vivant Denon, ce Dominique Vivant Denon, qui apparaît déjà d'ailleurs dans plusieurs de vos ouvrages antérieurs. Comment l'avez-vous connu, où, quand, depuis quand vous intéressez-vous à lui, et qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer un essai important à ce singulier personnage ?
C'est une drôle d'histoire. D'abord, Denon m'apparaît dans les anthologies de récits libertin du XVIIIe siècle. Et comme je suis plutôt passionné par ses écrits depuis longtemps, je le vois toujours figurer, toujours avec le même texte, dans les anthologies. Ce texte qui devient bizarrement de plus en plus fameux avec le temps, c'est Point de lendemain, dont les rééditions de maintenant n'arrêtent pas. Pourquoi est-ce que ce texte m'intéresse ? Parce que il a 35 pages, il est très court, et je sens depuis toujours qu'il est unique en son genre. Bon, il est signé Vivant Denon. Tous les spécialistes du XVIIIe siècle connaissent ce texte, indubitable, qui est là comme une sorte d'énigme, parce qu'il a d'abord été publié anonymement en 1777, avec des initiales MDGOR, qui veut dire, on l'a su petit à petit, Monsieur Denon, gentilhomme ordinaire du roi. Et puis il a reparu en 1812, et puis on retrouve sa trace dans La physiologie du mariage, où Balzac le recopie presque intégralement, mais avec des censures, en l'attribuant à Dora. Et puis, il reparaît un peu plus tard, la fin du 19e siècle, mais pas vraiment, parce qu'on le trouve pas trop digne d'être mis en valeur. C'est donc toute l'idéologie du 19e siècle qui est très hostile au récit libertin. Anatole France, par exemple, qui est un des premiers à reparler de Vivant Denon, pense que Point de lendemain doit rester quand même dans l'arrière boutique, enfin dans le fond de la bibliothèque, et que ça doit être présenté simplement aux bibliophiles ou aux connaisseurs. Et puis petit à petit, voilà. Et maintenant, je crois que le moment est venu d'en parler tout à fait à découvert. Dans son dernier roman, par exemple, Milan Kundera s'appuie beaucoup sur Point de lendemain, dont il a une version que je m'amuse à contester gentiment. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un texte. Mais à travers l'histoire de ce texte, c'est toute l'histoire aussi de la littérature du XVIIIe siècle. Est-elle derrière nous ou au contraire, nous concerne-t-elle d'une autre façon qu'on l'aurait cru ? C'est à peu près de la question qu'on peut se poser pour tous les auteurs du XVIIIe siècle les plus importants, notamment ceux que Denon, alors ça je vais le découvrir de plus en plus par la suite, a rencontré, c'est-à-dire Diderot en Russie et Voltaire en Suisse. Voilà ce Denon-là. C'est le Denon vivant du XVIIIe siècle. Il passe 53 ans de sa vie au XVIIIe siècle et 25 ans au XIXe siècle. Ça, je vais le découvrir petit à petit, c'est-à-dire que c'est une façon d'exister à la charnière de deux siècles et à travers quelle époque, qui peut nous intéresser beaucoup, parce que dans cinq ans, c'est la fin du 20e, et alors le 21e sera quoi, existera-t-il et comment ? Bon. Ensuite, j'ai quand même d'autres lectures, et je me rappelle quand même, avant que les pyramides du Louvre existent, que j'entrais, lorsque j'allais au Louvre, par le pavillon Denon. Était-ce le même homme ? Mais oui, c'est lui. Donc, pour les uns, c'est un auteur du XVIIIe siècle, de ce texte bizarre, et pour les autres, ce texte n'existe pas, et il est le fondateur du Louvre. C'est-à-dire que c'est lui qui a conçu, exécuté ce grand projet que vous voyez aujourd'hui et dont on peut de plus en plus attendre quelque chose comme une sorte d'irradiation. C'est le premier à avoir eu la notion de musée. Avant, les œuvres d'art étaient dispersées, soit dans les églises, soit dans les cours, et étaient réservées à la contemplation de ceux qui se trouvaient là. Quand on lit Chateaubriand, que Denon a très bien connu, autre écrivain français, on s'aperçoit que les tableaux dans les églises, à cette époque-là, étaient très difficilement visibles. Chateaubriand raconte comment à Venise, il est obligé de monter sur un petit tabouret pour observer l'Assomption de Titien, qui est invisible. Donc Denon coïncide avec ce moment très particulier de la conscience européenne, nationale et européenne, qui se pose la question du musée, et du musée démocratique. C'est-à-dire que ces œuvres d'art doivent être assemblées dans un endroit, ce sera la France, pour les, où ils seront accessibles à tous. Donc ces deux Denon, si je peux dire, c'est le même homme. À partir de là, j'ai eu envie d'en savoir plus et de m'intéresser à sa vie. Alors c'est un tel roman, un tel tissu de roman, que le personnage m'a semblé de plus en plus extraordinaire. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans ce livre.
Alors on va peut-être évoquer, au moins rapidement, les principales étapes de cette vie terriblement romanesque, comme vous venez de le dire. Mais avant, j'ai envie de vous poser une question. C'est la première fois, finalement, que vous consacrez une étude aussi importante, n'est-ce pas, à un personnage. Vous avez écrit des préfaces, vous écrivez beaucoup d'articles, comme ça, mais un personnage qui a ce double intérêt que vous venez de dire, d'être un écrivain, d'être également un artiste qui a fondé le Louvre. C'est la première fois que vous faites une étude de cette ampleur. Est-ce que vous l'avez voulu, cette étude de type universitaire? Il y a effectivement à la fin une bibliographie très sérieuse, et il y a des références et tout ça. On voit que vous avez beaucoup lu pour faire cette étude. Est-ce que c'est une étude de type universitaire, ou bien est-ce que c'est un essai plus personnel? Est-ce que c'est un texte d'amour? Qu'est-ce que c'est?
C'est une sorte de roman, je crois, centré sur un personnage, mais un personnage tellement romanesque que ça devient, le personnage et le roman, la même substance. Ce que ça m'a appris, ce livre, d'abord, ça a été très amusant à écrire. Ça m'a appris que j'étais ignorant en histoire. Et de là, je suis devenu soupçonneux sur ce qu'était devenu l'histoire chez tout le monde, quoi. Et je crois que l'ignorance de l'histoire est un phénomène galopant, hein, une amnésie, une perte d'analyse, de substance. Je crois que quand on parle de la fin de l'histoire, on désigne non pas que l'histoire s'arrête, parce qu'elle ne s'arrête jamais, mais la perte de la connaissance historique chez les individus, ce qui est très difficile, enfin très dangereux, puisque une humanité amnésique par rapport à l'histoire risque de s'enfoncer dans une passivité sans fin. Donc c'est un peu en réaction contre ça, c'est-à-dire je me suis réappris l'histoire en écrivant ce livre, d'une façon qui m'amusait, qui m'intéressait de plus en plus, parce que l'époque en question, c'est la Révolution française, c'est l'Empire, ce sont les campagnes militaires, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis assez friand de stratégie militaire. J'avais écrit ça dans mon dernier roman, Le Secret. Et par conséquent, ne serait-ce que par exemple ce qui entoure l'expédition d'Égypte en 1798 de Bonaparte, où Denon joue un rôle de premier plan. Pourquoi ? Parce que comme il est dessinateur et graveur, c'est le premier homme au monde, enfin en quelque sorte comme un cosmonaute sur la Lune, qui enregistre ce qu'on voit en Égypte. On n'avait jamais vu. Donc il rapporte de là des dessins, des hiéroglyphes qu'il ne comprend pas. Et voilà, donc l'objectif c'était de refaire vraiment de l'histoire. Et j'espère communiquer cet extraordinaire amusement que ça a été pour moi de faire de l'histoire comparative par rapport à aujourd'hui. Donc, je parle toujours à partir d'aujourd'hui et je compare ce qui nous arrive, le monde dans lequel nous sommes, avec ce qu'il faut bien appeler une époque révolutionnaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas dans une époque révolutionnaire. On peut aller plus loin dans l'analyse. Mais je compare ça, je compare ces deux époques. Évidemment, je parle de la Révolution et de l'Empire, de Napoléon Ier, le grand, pas de Napoléon III, le petit, comme dit Victor Hugo. Et j'essaye de voir un petit peu ce que c'est que la France dans cette épopée, où elle en est, ce qu'elle a à proposer, l'énergie qui est la sienne ou pas. Des questions qui me semblent assez cruciales, quoi.
C'est pour ça que vous reveniez sur un point de ce que vous venez de dire, quand vous déplorez cette amnésie de l'histoire qui affecterait nos contemporains. À qui pensez-vous en particulier?
Il y a quand même une chose, à moi, un peu tout le monde.
Il y a une chose qui est en contradiction avec ce que vous dites, c'est le succès des ouvrages à caractère historique, en particulier justement des grosses biographies historiques qui, depuis un certain nombre d'années, sont des best-sellers.
Oui, mais ça, c'est une histoire, si je peux dire, morte en quelque sorte. Enfin, je veux attaquer personne, mais c'est une histoire contemplative, c'est-à-dire une histoire qui est assez conventionnel finalement. Pour moi, l'histoire est une passion. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait d'histoire sans passion. Enfin, même lorsque la passion est retombée, elle couve, elle explose de temps en temps, elle se fait sentir. Donc, je crois que ces ouvrages dont vous parlez, enfin, je suppose que ce que vous voulez dire, c'est que l'auteur ne s'implique pas, ne s'engage pas dans son discours, et a donc un regard comme si son point de vue était neutre, comme s'il racontait quelque chose de joli, comme on fait des films à la télévision, des feuilletons historiques, pourquoi pas. C'est autre chose d'écrire l'histoire d'un point de vue très engagé, très, très, très personnalisé, en réfléchissant sur l'époque où l'on est par rapport à une autre époque, et de faire sans cesse le va-et-vient. Et c'est là, le fait d'être romancier me donne à ce livre une autre coloration, une autre allure. C'est une époque tellement extraordinaire. Voyons comment les deux écrivains que Denon a rencontré, quatre écrivains principaux, si on peut dire, Diderot en Russie, qui lui a servi de passeur pour son activité d'agent secret, puisque c'est lui qui a mis dans les bagages de Diderot des plans militaires substitués à la cour de Russie, donc à Catherine de Russie. Voltaire, je l'ai déjà dit, avec qui il a eu une relation très intéressante et assez insolente de sa part, puisqu'il avait 28 ans et Voltaire en avait 81, donc il y a une correspondance tout à fait passionnante. Chateaubriand, qui le ménage beaucoup dans ses mémoires d'outre-tombe, surtout à cause de son grand livre sur le voyage dans la basse et la haute Égypte. En 1802, il y a deux best-sellers en France, c'est Le voyage dans la basse et la haute Égypte de Vivant Denon et Le génie du christianisme de Chateaubriand. Ça dit quelque chose. Et puis Stendhal, qu'il a connu intimement, je crois, et qui a subi son influence, par exemple, dans l'amour que Stendhal portait à l'Italie. Bon, si je prends simplement les deux derniers, Chateaubriand et Stendhal, qu'est-ce qu'ils ont à dire de l'épopée napoléonienne? Ce sont des gens qui ont quand même l'habitude de mesurer leurs mots, d'autant plus que l'un est très opposé à la politique de Napoléon, c'est Chateaubriand, et l'autre est plutôt séduit, c'est Stendhal. Eh bien, tous les deux ont le même mot, c'est-à-dire c'était César ou c'était Alexandre. Donc, il y a eu un Français qui a représenté pour les nations, pour les peuples, pour les États, quelque chose d'aussi bouleversant que l'apparition de César ou d'Alexandre en plein XVIIIe siècle. Et ce sont des formules qu'on peut trouver emphatiques, mais je crois qu'il y a eu un tel bouleversement que, après tout, c'est la seule révolution qui ait eu lieu de façon très radicale. C'est la Révolution française. Les autres ont soit échoué, soit ont été retournés dans leur contraire. Mais enfin, il y en a une, indubitablement, qui a fait son effet, ne serait-ce que par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on peut dire être une déclaration en effet planétaire, c'est ce moment-là. Et ce moment-là est français. Tout à coup, j'ai eu envie de revendiquer cet esprit français, pour ne pas le laisser à son destin de régression, de moisie, de populisme. De ressentiment, de haine de soi. Voilà, j'avais envie d'un personnage un peu flambant, comme ça.
Vous faisiez allusion à son rôle d'agent secret à Saint-Pétersbourg, et puis ensuite en Suisse, vraisemblablement. Et il y a également ce séjour à Venise. Et c'est un personnage,
À Naples,
vous l'indiquiez tout à fait au début, qui donc a traversé un nombre considérable de régimes,
et très
de Louis XV à la Restauration.
À Louis XVIII.
À Louis XVIII. Donc, de Louis XV à Louis XVIII, il s'est arrangé pour se tirer d'affaire, un peu à la Talleyrand, mais sans que ces retournements soient aussi spectaculaires que ceux de Talleyrand. Est-ce que c'est un opportuniste vivant de nom? Est-ce que c'est tout simplement un habile homme?
Non, je crois que ça, opportuniste, c'est la légende que le 19e siècle lui crée tout de suite. C'est là, dans les dernières pages du livre, je m'attache à montrer comment le Larousse universel du 19e siècle le traite, avec une sorte de haine. tout à fait intéressante, parce que ça, c'est la bourgeoisie du 19e siècle qui s'exprime. C'est très, 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 très passionnant de voir à quel point, dans ce détour du 19e siècle, qui est le siècle du puritanisme, hein, ne l'oublions pas, comment Denon est considéré de façon négative. Parce qu'on ne veut pas rappeler l'épopée révolutionnaire et impériale, on ne veut pas non plus prendre acte du fait qu'il a écrit un récit libertin, et on ne veut pas non plus revenir sur la constitution du Louvre. Qui est dû en grande partie au fait que l'Europe a été en quelque sorte pillée. Alors pillée pour Denon, ça paraît tout naturel. C'est-à-dire il est persuadé, s'il le dit, que avant lui, avant les Lumières, avant l'esprit des Lumières qui l'anime, les œuvres d'art ne sont pas vues, qu'elles sont dissimulées, qu'il faut les rassembler, encore une fois, d'un point de vue très démocratique, dans un grand musée. Je crois que c'est une idée très révolutionnaire, qui ne plaît pas au XIXe siècle, parce que la bourgeoisie du XIXe, elle est coincée entre les meutes prolétariennes de la Commune et le danger monarchiste, qui est toujours là. Donc, c'est un discours de conciliation, de recouvrement. Donc, je ne vais pas revenir sur le 19e, moi je m'occupe de cette époque si étrange, si électrique, dans laquelle quelqu'un comme Denon a vécu. Il a eu des responsabilités, à mon avis, très importantes.
Opportuniste ou pas, alors vous avez...
Si vous acceptez que le mot devienne positif, ouais. Ce qui n'est pas le cas dans la connotation habituelle dans laquelle on l'emploie, parce qu'opportuniste, ça veut dire se soumettant à tous les régimes, il y a eu un article comme ça dans Match, enfin, donc, comparant. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que l'article qui le retraitait d'opportuniste était très, très, étant donné ses références politiques, c'était très intéressant. On le comparait à Göring, c'est pas du tout ça, bien sûr.
En tout cas, il est toujours auprès des gens qui conviennent au moment qui convient.
Attendez.
Il y a la rencontre avec Robespierre, que vous décrivez, qui est absolument d'ailleurs extraordinaire.
Attendez. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie d'une façon permanente. Il est très courageux physiquement, comme le prouve son attitude en Égypte, hein, dans les batailles. Et dans les batailles de Napoléon, c'est quelqu'un qui est assez âgé, 60 ans, et encore à cheval sur les champs de bataille. Sur des champs de bataille, où, comme vous vous souvenez sans doute, on devenait général à l'âge de 25 ans. C'était une époque assez curieuse. Bonaparte a 28 ans quand il est général. Donc très courageux physiquement. Quand il est en Russie, il est expulsé de Russie. Il aurait pu être assassiné aussi en 12. Quand il est à Naples, ses dépêches diplomatiques sont tellement critiques. J'en publie un certain nombre, elles sont savoureuses. Elles sont tellement critiques à l'égard de la cour de Naples, c'est-à-dire Marie-Caroline de Naples, qui est la sœur de Marie-Antoinette, qu'il va se faire virer de la diplomatie. Il pourra le revendiquer d'ailleurs plus tard en disant « j'ai été cassé par Marie-Antoinette ». Il aurait pu lui arriver des histoires. Quand il est à Venise, il est quand même, je crois que le document est fascinant, interrogé plusieurs fois par l'Inquisition elle-même, qui existe encore à l'époque. Et donc il est soupçonné d'être un agent révolutionnaire. Donc il avait là encore des risques à courir. Quand il rentre en France, c'est très dangereux, parce qu'il rentre fin 1793. Donc c'est très sur la corde raide. Il est sur la liste des émigrés, et donc s'il est arrêté en cours de route, il peut être exécuté sur le champ. Alors évidemment, il est protégé par David, qui est membre du comité de salut public. Il y a en effet cette rencontre extraordinaire, extravagante. Moi, je trouve que c'est un grand morceau d'histoire, c'est-à-dire la rencontre avec Robespierre la nuit aux Tuileries à 2h du matin. Voilà. Ça, c'est un portrait de Robespierre. C'est là ce qui fait regretter que Denon n'ait pas écrit ses mémoires, parce qu'on aurait des portraits inouïs. Ça, c'est un récit qu'il a fait à une Irlandaise qui s'appelle Lady Morgan. Donc, il a rencontré Robespierre à 2h du matin, qui lui a dit... Alors, tout est décrit, n'est-ce pas, le costume de Robespierre, les attitudes de Robespierre, sur lesquelles on manque beaucoup de témoignages, vous avez remarqué. C'est un des rares témoignages directs sur la façon de Robespierre se comporter dans une pièce, c'est de Denon. Parce que Robespierre est aussi un des grands tabous de l'histoire de France. Un personnage étonnant. Et donc là, Robespierre lui demande, parce qu'il est rentré, comme ça, comme il est graveur et dessinateur, de dessiner les nouveaux costumes républicains. Bon, mais Robespierre tombe, etc. Mais donc, vous voyez, c'est une vie assez... Vous dites opportuniste, oui, d'accord, mais il faut être à 51 ans en cheval en Égypte, en train de se faire tirer dessus toute la journée. Il faut opportuniste, si on veut. Enfin, voilà. C'est pas un opportuniste dans son. C'est même pas Talleyrand, parce que Talleyrand est un homme de cabinet.
Oui.
Non, c'est pour ça que j'appelle ça le cavalier du Louvre. C'est-à-dire, tantôt il est en train de travailler constamment à son musée, tantôt il est à cheval à travers l'Europe, partout. Quand il est en Espagne, il y a un mot de lui où il dit j'ai failli me faire assassiner 5 ou 6 fois. Seulement, comme il n'y a jamais de pathos. Comme c'est un homme sensible et non sentimental, et comme il est très discret, on peut le soupçonner de tout ce qu'on veut. Mais enfin, les preuves sont là. C'est chaque fois un risque très... Alors, il a survécu, mais ça, c'est pas forcément un défaut.
C'est sûr qu'il est extraordinairement courageux, effectivement, pendant les batailles, il dessine, alors que les boulets passent à côté,
dessine,
à droite.
Il dessine de façon impassible, n'est-ce pas ? Il y a l'anecdote fameuse, il est en Égypte, il est en train de dessiner, enfin, c'est lui le dessinateur de l'armée, il est très respecté par l'armée d'ailleurs, qui est beaucoup plus jeune que lui, et donc il est en train de dessiner un temple, et il y a un mamelouk qui lui tire dessus, bon, à cheval, et qui le rate. Et dedans, on pose son cahier à dessin, et c'est raconté par des témoins. Prend son fusil et tue le mamelouk en question. Bon, puis voilà, il rentre au campement, et le général de Sec, son ami, lui dit « Mais c'est curieux, votre ligne d'horizon, là, n'est pas très droite. » Il dit « Oui, il a tiré un peu vite. Voilà. » Comme ça. Et ça, c'est très dans son caractère. Jamais de pathos.
Il y a des témoignages extrêmement étonnants, justement, pendant ces combats qui sont très violents. Alors, à un moment, il décrit des soldats qui sont à moitié morts et qui sont en train de s'entretuer. Et il y a un soldat français qui est déjà agonisant, mais qui, avant de mourir, n'est-ce pas, trouve le moyen d'estourbir un mamelouk. Et Denon lui dit, mais enfin, pourquoi le tuer ? Et il dit, mais vous voyez bien que je vais mourir, il faut bien que je jouisse un peu.
Voilà, ce sont des paroles terribles. Les scènes de bataille chez Denon sont toutes admirables, parce qu'elles sont très précises, sans aucun pathos, et parfois avec une sorte de lyrisme tout de même, très fort. Encore une fois, c'est des moments d'émotion, là. Il y a des moments d'émotion plusieurs fois dans le voyage en Sicile, quand il est dans l'Etna, sur les bords de l'Etna. Déjà, sa prose, là, s'amplifie. C'est quelque chose d'assez émouvant. Il parle quelquefois de son corps, assez rarement. Mais là, dans les batailles, oui, son corps est là, parce qu'il y a des boulets qui passent, puis les gens meurent autour. Donc là, ça devient très, très étrange. Et il y a surtout une émotion par rapport à cette armée. C'est cette armée de l'an 2, l'armée révolutionnaire, impériale désormais, enfin bonapartiste, pas encore impériale, qui se trouve en Égypte, dans le désert, et qui est là. Il y a une scène, je trouve, très belle, qui est décrite d'ailleurs par lui. L'armée française arrive devant les ruines de Thèbes, qui est là, dans le désert. C'est la première fois qu'il voit cette Égypte mystérieuse. Et l'armée s'arrête et les soldats applaudissent. Alors, il faut imaginer cette scène extraordinairement surréaliste d'une armée en train d'applaudir des ruines dans le désert. Mais il y a beaucoup de choses comme ça dans Denon, y compris ces histoires bizarres avec son reliquaire. Tout ça. Bon, bref, chaque fois que j'ai gratté ce personnage, j'ai trouvé toujours des choses étranges et séduisantes. C'est-à-dire sa façon de vivre et surtout cette passion pour l'art, parce qu'il n'a pas beaucoup, on ne spéculait pas à l'époque. Quand la vente de sa collection en 1826, on voit les prix dérisoires. Il a une collection magnifique de toutes époques, et surtout le goût. C'est-à-dire que c'est lui qui, par exemple, a sauvé du détritus, c'est pas d'autre mot, le Gilles de Watteau qui est au Louvre aujourd'hui, qui l'a ramassé dans la brocante, alors parce que ça ne valait rien. Il faut imaginer des tableaux de Watteau qui ne valaient rien en France.
Il l'a trouvé chez un oiseleur de la place du Carrousel.
Qui s'en servait comme enseigne pour faire sa publicité.
Je voudrais que vous reveniez sur l'écrivain, parce que c'est quand même ça, vous le disiez, qui vous a intéressé au départ, n'est-ce pas ? Et c'est Point de lendemain. Et alors,
c'est un texte magnifique.
Oui, c'est un texte magnifique, mais qui est un texte alors vraiment du XVIIIe siècle. C'est la langue du XVIIIe siècle dans son état de pureté total. Enfin, et c'est bon, et puis en même temps, c'est proche de Laclos. Mais quand vous parlez du voyage.
Attendez, il faut dire qu'il n'y aurait pas eu Laclos s'il n'y avait pas eu point de lendemain. Ouais. C'est-à-dire que 1777, la première version, Laclos, les liaisons dangereuses, c'est 1782. Il est certain que Laclos a lu ce texte et s'en est inspiré pour se développer ses liaisons dangereuses. Les deux caractères sont assez proches, d'ailleurs. Hein. Laclos est un militaire, Denon est un agent secret. Ce sont des drôles de gens.
Mais dans, vous parliez du voyage en Sicile. Dans le voyage en Sicile, vous disiez qu'il y a une espèce de lyrisme, justement. Et ce lyrisme, c'est déjà le néo-romantisme, c'est déjà Chateaubriand. Quoi.
Absolument, ils sont très proches. Oui, on voit, ça c'est une question de qui intéresse les spécialistes du style, on voit que Denon accompagne sans rupture. Hein, parce qu'on classe Ancien Régime, 18e siècle, 19e siècle. Lui, il est là, et on voit la courbe de sa phrase changer. Et elle change sous la pression des circonstances dramatiques qu'il a vécues, et notamment dans les descriptions de paysages ou des batailles auxquelles il est amené à participer. Je pense quand même que ce point de lendemain, s'il intrigue depuis si longtemps, c'est parce que personne n'arrive à en discerner exactement le sens. Alors je propose mon interprétation. Si quelqu'un en fait une meilleure, je l'attends de pied ferme, mais je reconnaîtrai qu'elle aura dépassé la mienne. C'est un texte très mystérieux sur ses intentions. Voilà.
Est-ce que vous pouvez revenir sur l'homme du Louvre aussi? Puis après, on va demander au public s'il a des questions. Mais sur l'homme du Louvre, parce que c'est très intéressant, vous dites qu'il crée le musée moderne.
Mais avec une détermination, une obstination, un pragmatisme, un opportunisme, au sens positif.
Mais aussi une indépendance face au pouvoir, c'est-à-dire qu'il dit au fond à l'empereur, c'est moi qui, vous avez le pouvoir, mais c'est moi qui ai le goût, c'est ça.
Alors il y a des lettres, je crois que Napoléon le respecte, lui qui ne respecte presque personne, et qui est toujours très méfiant. Il y a un mot de Chateaubriand, vous savez, c'est que Napoléon considérait qu'un insecte qui ne volait sans sa permission était un insecte révolté. Et alors pourquoi est-ce qu'il il endure de nom? Premièrement, je crois que Napoléon est tout sauf sot. Hein. C'est vraiment un très bon général d'abord. Et donc il a compris que qu'il lui était indispensable. Qu'une politique de répression dans l'art ou d'art officiel, que la ligne David, si vous voulez, hein, celle du sacre, etc., la peinture officielle, n'était pas la bonne. Donc il prend quelqu'un de beaucoup plus complexe, nuancé, avec des intérêts plus lointains. Il le respecte aussi parce qu'il est... Il est brave au combat, ça compte comme... Et puis il est patriote, en quelque sorte, il agit pour la grandeur de ce qu'il croit être la France, de voir être la France. Moi ça me... Pourquoi pas ?
Il n'y a pas une parenté entre les rapports entre Napoléon et Vivant Denon, et ceux qui existaient entre De Gaulle et Malraux ?
Oui, je fais le parallèle à un moment donné, mais là on voit en effet la discordance entre un temps où De Gaulle-Malraux, ça a duré un petit peu comme ça, dans une époque très difficile. Mais il y a quelque chose de ce genre. Indubitablement, il y a quelque chose de ce genre, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs et la coordination de deux énergies qui auraient dû s'opposer. Hein, parce qu'il y a peu de... Napoléon ne connaît rien à la peinture ni à l'art. Hein, il y a des anecdotes célèbres à ce sujet. Alors Denon est très insolent avec lui, et lui écrit parfois, mais toujours cette insolence très 18e, justement, et lui écrit parfois, si votre majesté veut se rendre ridicule en faisant ce cadeau au pape, qui est complètement incohérent, elle n'a qu'à le dire. Ou alors, si votre majesté veut être ridicule en s'habillant comme du conseil, son conseil, tout ça, voilà. Alors Napoléon, quand même, c'est très insolent. Donc Napoléon cède à chaque fois. L'autre anecdote, c'est quand... Vous savez, Napoléon s'est marié trois fois. Donc je crois que Denon était un ami intime, je souligne le mot, de Joséphine de Beauharnais, qui est devenue impératrice. Ensuite, ça c'est pas mal déjà comme hypothèse, mais qui peut être prouvée, je crois. Ensuite, donc, il faut faire le sacre avec l'histoire du pape. Pie VII, par exemple, c'est Denon qui s'en occupe. Quand Pie VII est enlevé et qu'on le ramène en France, c'est Denon qui lui fait visiter Paris. C'est très, très intéressant aussi. Et donc, quand Napoléon veut jouer dans la cour des grands, et donc il répudie Joséphine et épouse Marie-Louise, hein, le premier mariage, c'était donc à Notre-Dame, le deuxième mariage est mis en scène par Denon, il a lieu au Louvre, justement. Le Louvre doit être transformé en chapelle pour marier Napoléon, canoniquement et catholiquement, avec Marie-Louise d'Autriche. Bon. Et là, il y a cette anecdote absolument extraordinaire, c'est que Denon commence à dire, écoutez, se transformer le Louvre en chapelle, tout ça, ça va être compliqué, on va être obligé de descendre des tableaux, certains sont très grands, dont les fameuses noces de Cana. qui était à Venise. Et donc, ça veut vraiment, enfin, c'est difficile. Et alors là, Napoléon a une crise de rage. Il dit, mais vous n'avez qu'à les brûler. Alors là, de non cède, transforme le Louvre en chapelle pour le mariage de Napoléon. C'est une anecdote assez qui dit bien, quoi. C'est le rapport entre ces deux hommes. Napoléon est un drôle de type que je n'aimais pas tellement au départ. Je dois dire qu'en travaillant sur lui, surtout à cause des questions militaires, il m'est devenu bizarre. Presque pas sympathique, mais...
Justement, je voudrais vous poser une question sur votre méthode quand même. Parce que là, vous avez dit quelque chose à propos de Joséphine. Ils ont eu une relation intime. J'en fais l'hypothèse.
Non, Joséphine était la maîtresse officielle de Barras. Vous savez qu'il avait la bonne habitude, lorsqu'il passait à autre chose, de marier ses maîtresses. Et on sait que de nombreux étaient dans l'entourage immédiat, assez débauché, il faut bien le dire. Pas lui tellement, parce qu'il avait autre chose à faire, mais c'est un milieu quand même assez... Voilà. Donc Joséphine était une charmante personne, dont Bonaparte est tombé très amoureux. Et qu'il a épousé, il a aimé Joséphine. Hélas, la réciproque n'a pas été évidente.
Oui, mais ce que je veux vous demander, c'est quand vous dites, bon, il était dans l'entourage, etc., donc il y a toutes les raisons de croire qu'il a eu avec Joséphine des relations étroites et intimes.
Il y a une lettre qui le laisse supposer.
Oui, supposer, bon. De la même façon, par exemple, quand certains... Souvent, vous manquez de documents, évidemment. Là, il n'y a pas de... Donc, vous le disiez, il n'a pas laissé de mémoire, il n'y a pas de... La correspondance privée a disparu, donc vous manquez de documents. C'est un homme très discret. Ça met à son crédit, vous le faites à diverses reprises. Mais donc, quand il n'y a pas de documents, vous imaginez les conversations, etc. Bon, à un certain moment, il y a quelque chose qui m'a quand même fait sursauter. Il s'agit de Lerlin, que vous admirez, et il dit, bon, ces antiques ont été vues lors de son passage de retour de Bordeaux par un voyageur allemand et un poète du nom de Friedrich Lerlin. Pour entrer au Louvre, il n'aura eu à montrer que son passeport. À moins qu'il ait rencontré vivant. Pourquoi pas ? Nous ne sommes pas obligés d'en avoir la preuve matérielle. C'est en tout cas possible, donc, d'une certaine façon, du moins pour moi, réel. Est-ce que vous vous imaginez les réactions d'un universitaire en face d'un passage ?
Les universitaires sont des gens parfaits que je recommande à tout le monde et leurs travaux sont très nécessaires. Malheureusement, il manque d'imagination. Et le problème là, qui est passionnant, avouez-le, c'est pour moi en tout cas, c'est de prouver qu'il est parfaitement possible qu'en revenant de Bordeaux, cher Jean-Marie,
j'ai noté,
et en rentrant vers l'Allemagne, dans l'histoire qui marque cette ville à jamais, nous savons qu'il est passé par Paris, qu'il a vu les antiques, c'est-à-dire qu'il a eu la révélation des Grecs dans leur forme, et ce qu'il écrit est très, très d'une profondeur admirable. Enfin bon, il a vu l'art grec, il n'est jamais allé en Grèce, il n'est jamais allé en Italie, il est passé par la France, il a vu Bordeaux, il a vu les femmes bordelaises, brunes sur le sol de soie, bon, comme il dit dans ce merveilleux poème qui s'appelle Andenken, et il est passé ensuite par Paris, il a vu les antiques. Mort ces antiques, c'est de nom qu'il les gérait. Bon. L'Apollon du Belvédère, le Laocoon, était à Paris à ce moment-là. C'est l'art grec dans toute sa pureté d'origine. Pourquoi est-ce que Denon est le seul à pouvoir juger de ça ? Parce que très tôt, en 1777-78, lorsqu'il est à Naples, et que les fouilles d'Herculanum et de Pompéi commencent, c'est lui qui voit le premier ce que c'est que la Grèce qui surgit du sol. On ne le soupçonne pas. Vous allez à la manufacture de Sèvres aujourd'hui, et vous voyez la collection de vases grecs de Vivant Denon, qu'il a vendu ensuite à Louis XVI. Ce sont des objets de toute beauté, je les décris d'ailleurs un peu ici, qui sont du 5e siècle avant notre ère. C'est la Grèce telle qu'on l'ignorait. La Grèce était visible par tout le monde, si on montrait un passeport, si on était étranger, à Paris, en 1802. Hölderlin a vu ces antiques. Il n'a pu les voir qu'à Paris, au Louvre. Et alors, pourquoi se priver d'imaginer qu'il a pu rencontrer Denon, qu'il lui a fait visiter ? Vous savez, il y a des choses étranges dans la vie de Denon. De plus, chaque fois que j'avançais, je trouvais une étrangeté. Par exemple, un billet de Humboldt, tout à fait, qui n'est pas n'importe qui était en poste à Paris. Il faut imaginer ce Paris de cette époque, n'est-ce pas ? Avec les guerres et ensuite l'arrivée des Alliés à Paris, il y a un mélange entre l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Russie. Tout à fait extraordinaire. Hölderlin, en tout cas, est passé en 1802 à Paris et a vu les antiques. Il n'a pu les voir que là.
C'est fabuleux d'ailleurs, au passage, enfin, notons ça, parce que c'est fabuleux le Louvre de cette époque, vous venez de le rappeler.
Alors,
il y a le Laocoon, il y a la Vénus Médici, l'Apollon du Belvédère, les noces effectivement de Léonard de Vinci qui restent parce qu'on peut... Elles sont,
le dernier combat de Denon, d'ailleurs, au fond, toléré par Louis XVIII, malgré... Il n'a pas été vraiment... expulsé, exclu de France, comme David a été obligé de s'exiler. Denon n'est pas régicide, n'est-ce pas ? Il est rentré en pleine terreur. Il n'a pas participé à l'organisation de la terreur. Non. Donc il n'est pas criminel au sens de la restauration monarchique. Mais Louis XVIII est assez malin, pas un imbécile. Louis XVIII dit, voilà un type qui tient tellement à son musée qu'il va défendre les intérêts de la France. Donc les alliés sont là. Il faut comprendre ce que c'est que Denon. C'est un type qui... Vous êtes à Paris, le carrousel, c'est lui. La colonne Vendôme, qui a fait beaucoup parler d'elle pendant la Commune de Paris, avec Courbet, c'est lui aussi. C'est-à-dire...
Et l'obélisque,
c'est une idée à lui qui sera réalisée après sa mort. Donc, vraiment, c'est l'orientation de Paris. C'est dans ces grands monuments, quand Mitterrand défend ses grands travaux, qui, dit-il, seront peut-être la seule trace qu'il laissera comme un pharaon. C'est bien vu, mais enfin, c'est du Denon. Hein. C'est rien d'autre. C'est la continuation de cette espèce de rêve futuriste. Enfin, les pyramides de Pey au Louvre, c'est du Denon pur. Ça, sans aucun doute aussi. Moi, j'aime bien ces pyramides, justement. Elles ont fait couler beaucoup d'encre parce qu'on ne voulait pas que le Louvre 19e soit touché. Mmh. Mais ben justement, il va plus loin que le 19e siècle. Donc, voilà ce type, quoi. Donc, moi, je vous dirais que je suis un fanatique des musées. Je crois que c'est absolument essentiel. Pour la raison suivante, c'est qu'une époque se trompe toujours sur l'art, la nôtre comme les autres. Quand vous voyez au Grand Palais la dernière exposition de Cézanne et le bruit de marchandises qui se fait autour, vous pouvez éventuellement dire tout ça, c'est de la marchandise, c'est du spectacle, c'est de l'irradiation inutile, on spécule sur l'art, on spécule... Voilà, vous auriez raison. Notre époque est beaucoup plus barbare que la vision qu'a eue Denon du musée. Notre époque est celle de la dévastation, en effet, du pillage général pour des raisons d'argent et de régression. Je crois qu'il est bon qu'il y ait quand même une très grande exposition Cézanne à Paris, la première depuis 1936. Est-ce que ça n'est pas étrange ? La première fois que la France fait ça. Et donc, je crois que je défends la notion de musée pour la raison suivante, c'est que vous ne pouvez pas anticiper de là où vous êtes, de là où nous sommes, sur le regard neuf de quelqu'un qui va voir tout à coup quelque chose. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer avec les gens qui voient des tableaux. C'est cette liberté-là qui me plaît. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'un enfant de 10 ou 12 ans qui va voir des tableaux pour la première fois, qui ne les aurait pas vus sans ça. Faire confiance à la perception humaine sur un très petit registre de personnes, très petit, puisque l'art, comme a dit Cézanne, s'adresse toujours à un nombre excessivement restreint d'individus. Donc il faut qu'il y ait l'idée démocratique et il faut qu'il y ait l'idée d'exception. Denon a une parole magnifique quand les alliés ont repris les tableaux. Ils avaient découvert entre-temps leur valeur. C'était à eux, mais ils ne savaient pas ce que ça valait. Tout à coup, l'idée qu'il y ait eu un type français pour faire, c'est un monument extraordinaire qui plaisait au public, parce que le public y allait beaucoup, il faisait des salons, etc. Tout à coup, ils ont compris qu'ils avaient des choses de valeur, mais ils ne le savaient pas. Et Denon, lorsqu'ils ont repris les tableaux, il y avait les troupes prussiennes, autrichiennes, a dit, mais bon, très bien, mais il leur manquera toujours les yeux pour les voir. Voilà.
Alors, y a-t-il des questions à poser à Philippe Solers dans la salle ?
Avec Chateaubriand, ici on observe l'Assomption du Titien à Venise, et vous faites assister vivant Denon à la scène en témoin obscur, et à ce moment-là, vous, me semble-t-il du moins, vous faites naître l'idée de musée, ou germer l'idée de musée dans son imagination. Est-ce que c'est là aussi du Solers ? Est-ce que c'est une hypothèse tout à fait plausible, non, pas seulement, ou est-ce que, voilà...
Non, mais ce sont les faits, surtout. Enfin, ouais. Il se trouve que c'est moi qui ai écrit ce livre, je m'en excuse, mais...
Mais
j'attends les érudits, et les historiens de pied ferme, et je vous assure, je les ai tous lus, que ma bibliographie est impeccable, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contester...
Ah, c'est pas une question policière.
Non, je vous réponds sur la chose. Je suis obligé d'interpréter ce que les historiens ne font pas. Pourquoi il a eu, lui,
oui,
lui et pas un autre. Cette idée, voilà. Alors je donne un certain nombre d'hypothèses, je vais vous répondre. L'idée de musée, j'ai dit, était impensable avant. Historiquement, c'est prouvable, personne n'avait jamais pensé qu'on pouvait rassembler dans un lieu qui ne soit pas un lieu de culte ecclésiastique, qui ne soit pas une cour princière ou une monarchie, des œuvres d'art. Donc vous avez en quelque sorte la séparation de l'art et du pouvoir religieux, de l'art et du pouvoir politique. Première chose. Deuxièmement, à partir de quand a-t-il eu cette idée? Il est graveur, il est dessinateur, il pense, et à juste titre, que l'art est de plus en plus mal vu, mal présenté, ignoré, etc. C'est une époque de décadence, en quelque sorte. C'est peut-être pour ça qu'il y a une révolution. Aussi violente, aussi profonde. Donc l'idée lui vient petit à petit. Il voit Diderot faire du trafic d'art pour la cour de Russie. Très important. Il voit le premier Naples. Et qu'ils sont trois à s'intéresser aux fouilles. Il y a un Anglais, Hamilton, il y a lui, puis quelques... Ils sont trois. Vous sortez des choses qui n'ont pas été vues depuis 5000 ans, et vous avez quatre personnes que ça intéresse. Bizarre. Ensuite, il voit Venise. Là aussi, il considère que les tableaux sont mal accrochés, qu'ils sont enfumés, qu'ils sont crasseux, que le clergé ne les voit pas, que personne ne s'y intéresse. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, que tout ça se passe dans une indifférence générale, qu'on peut remplacer les noces de Cana par un tableau de Lebrun. Personne ne voit la différence chez les moines, que personne ne voit la différence non plus chez les familles monarchiques qui sont là avec leurs œuvres d'art, mais qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles ont, ce qui est prouvable. Donc il voit ça, il voit cet état de ruine, d'indifférence. Et puis il va en Égypte, et alors là c'est là qu'à mon avis l'idée lui vient. Il voit là aussi les temples égyptiens, il faut regarder son récit d'Égypte, et il a l'idée d'un temple tout à fait nouveau. C'est une idée assez mystique, si vous voulez, pourquoi pas. C'est assez, à la fois rationnel et mystique. Et il a cette idée du musée, ce qui donne le musée du Louvre, qui est quand même... si vous voyagez, le musée est quand même... c'est pas ce dont l'histoire de France a le plus à rougir. Loin de là.
À un certain moment, dans le livre, il s'agit du voyage en Sicile. Ce texte sur son voyage en Sicile.
C'est avant d'être conseiller, chargé d'affaires à Naples, c'est-à-dire chargé de l'espionnage de la cour de Naples.
Et alors, comme vous l'avez expliqué très bien au début, n'est-ce pas, ce qui vous intéresse, c'est de partir de notre époque, d'aller vers celle-là, et puis de cette confrontation, n'est-ce pas, de tirer un certain nombre d'éclairages sur ce que nous vivons. Et vous écrivez ceci. Une bonne partie du voyage en Sicile consiste à comparer la vision idyllique des textes mythologiques ou poétiques avec la trivialité pétrifiée du présent. Cela aussi est de la polémique indirecte. Ce qu'on pourrait résumer par « quand le présent est trop indigne du passé, le futur se venge ». Au moment où j'écris ces lignes, donc c'est Solaire qui parle, au moment où j'écris ces lignes, ça ne devrait pas de nouveau tarder. Qu'est-ce que vous nous annoncez là? Vous restez dans le flou.
Oui, exprès, parce que personne ne le sait, pas plus moi que... Vous savez, en avril 1968, c'est tellement la préhistoire, tout ça. Il y a un journaliste qui s'appelait Pierre Viançon-Ponté, dans Le Monde, avait écrit un article qui après coup, a paru prophétique. C'était un article qui s'appelait « La France s'ennuie ». Il y a eu le mois de mai, alors on peut en penser ce qu'on veut. Je pense que... Je crois qu'en effet, il y a une sorte de marasme tel que... je ne crois pas du tout à la fin de l'histoire, à la décadence obligatoire, à l'apocalypse encore moins. Et je pense qu'il y a toujours des ressources et des énergies insoupçonnées qui surgissent, peut-être de façon catastrophique pour commencer.
Le futur va se venger.
Il s'est vengé à la fin du XVIIIe siècle, indubitablement. Est-ce que c'est une révolte, dit Louis XVI? Non, si, c'est une révolution. Alors, de deux choses l'une, parce qu'il faut savoir à quel point les Français sont dans un problème quasiment névrotique avec cette histoire. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française? Est-ce qu'on peut revenir avant? C'est peu probable. Et celui qui m'intéresse là-dedans, c'est... ça va vous surprendre. C'est quelqu'un comme Marx. Dieu sait si voilà un nom maudit aujourd'hui. Pendant que j'écrivais ce livre, je me suis dit, mais voyons, il faudrait que je relise ce que je... un livre de Marx qui m'avait beaucoup plu quand j'étais plus jeune, qui s'appelle « Le 18 primaire de Louis Bonaparte ». Napoléon le Petit, comme a dit Hugo. Il y a 20 ans, 25 ans, ce livre existait partout en livre de poche. C'était vraiment, pour les gauchistes d'alors, vraiment un livre de base. Ce livre n'est pas disponible. Il faudrait que je demande à Denis Mola s'il est en poche, là, tout de suite. Je n'ai pu l'obtenir que dans l'édition du tome 4 de la Pléiade, qui était d'ailleurs sorti dans l'indifférence générale. Eh bien, je vous conseille, de même que je vous conseille de lire Point de lendemain, c'est un texte merveilleux. Si vous mettez le nez dans le 18 primaire de Louis Bonaparte de Marx, je trouve que c'est un texte assez actuel, compte tenu du fait qu'on peut changer un certain nombre de repérages sur le prolétariat, etc. C'est un texte extraordinaire sur la société française. Et Marx dit, la grande révolution française, et il date 1789-1814. Ça m'a beaucoup frappé. Car je crois qu'aucun Français ne date comme ça. Soit il pense qu'il est d'avant 1789, c'est le monarchisme pur et dur, qui nous donne 1940 par certains côtés. Soit il date de façon républicaine et jacobine. Alors, la révolution est-elle un bloc? Est-ce qu'on met la terreur ou est-ce qu'on ne met pas la terreur? Problème toujours actuel. Soit il date d'après le rétablissement de l'Empire, mais à ce moment-là, il devient bonapartiste et il tombe dans Napoléon III. Bref, personne en France ne date 1789-1814. Seul Marx l'a fait. Marx est un historiographe très sérieux. Il fait servir l'histoire à sa cause, bien sûr, mais enfin, il est très, très attentif. Et tout à coup, j'ai trouvé que cet éclairage était beau. Enfin, vrai, plutôt.
Vous conseillez de lire Point de lendemain et... C'est votre avis, c'est un très beau texte. Mais alors, il y a trois versions de Point de lendemain. Oui. Il y a une version de jeunesse, une version qu'il a reprise ensuite, et une version pornographique, ou très érotique. Vous pouvez me parler des trois versions?
Oui, les versions sont très différentes. Enfin, celle qui est canonique, celle que vous achetez en librairie, et qui est la version sur laquelle tout le monde travaille, est la version de 1812. Bizarrement, en 1812, Denon, qui est au sommet de sa carrière, entre guillemets, puisqu'il est en effet baron d'Empire, etc., publie pour quelques amis, à très peu d'exemplaires, ce récit, qui est un récit de jeunesse. Quand il a écrit ça, il a 28 ou 30 ans. Hein. Il le republie, très discrètement, avec ses initiales, sans chercher aucune publicité. En plus, il a un devoir de réserve, c'est un dignitaire de l'Empire. Mais geste, pour qui veut comprendre. Pour l'histoire, il republie ce texte, voilà, tout en étant obsédé par ses histoires de Louvre, pour montrer qu'il reste le même. Voilà, c'est un acte. La version de 1777 est, à mon avis, moins belle, mais comporte des détails très importants que j'analyse. Et la version, alors, dite de la Nuit merveilleuse, qui est parue à la fin du XVIIIe siècle, personne ne sait, mais... Un spécialiste du 18e, comme Delon, par exemple, dans sa présentation de Folio, dit qu'il est très possible qu'il y ait mis aussi la main, tellement ce type est complexe. Donc c'est la même version, mais en style pornographique. Donc c'est un exercice de style aussi, c'est-à-dire un texte qui reste très décent, puisque vous connaissez le sujet, il s'agit d'une femme de l'aristocratie qui enlève un jeune homme un soir à l'opéra, qui l'emmène dans son château, qui lui fait subir un certain nombre de petits exercices et qui ensuite a convoqué son mari, son amant officiel et le jeune homme en question et qui se retrouvent tous les trois en quelque sorte floués ou joués par cet ancêtre de la marquise de Verteuil. C'est évidemment une confidence biographique de la jeunesse de Denon. Ça saute aux yeux. Alors voilà, vous avez le choix entre la version de jeunesse, un peu plus maladroite, la version de la maturité qui est extraordinaire de maîtrise, ou la version pornographique. Bon, on va prendre celle du milieu.
Justement, on a peu parlé, enfin on n'a pas du tout parlé, même. Vous avez fait allusion.
Il faut connaître les trois.
Vous avez fait allusion à Joséphine, mais vous avez peu parlé de la carrière amoureuse de Denon. Il semble qu'elle ait été importante, cette carrière. Il était célibataire, mais on l'appelait le faune. Le faune. Et il se faisait connaître des actrices sous le pseudonyme de l'homme au gilet rose. Il y a eu des femmes.
Ah non, mais plein. D'abord, les témoignages de l'indirect le prouvent. Ensuite, on vous ouvrait ses cartons de dessin. Mmh. Il y a énormément. C'est un bon dessinateur, un très bon graveur. Dessinateur et graveur. Les portraits de femmes, il y en a énormément et elles sont très intéressantes à regarder de près. Alors, pas marié. Ben oui, ça, c'est voilà, un homme qui a échappé au mariage, y compris dans son vieil âge. C'est une preuve de résistance nerveuse extraordinaire. Il répond ça à l'Inquisition lorsqu'il est interrogé à Venise, qui veut savoir quelles sont ses mœurs. Peut-on lui attribuer des mœurs plus suspectes ? Non plus. Très très calme, très serein. Il a beaucoup vécu dans sa jeunesse. Les gens qui vivent très intensément dans leur jeunesse n'ont pas forcément besoin de poursuivre des expériences tardivement. Bon. Ça aussi, c'est très important. Qui a vécu de façon intensive entre 20, c'est l'âge qu'il se donne dans Point de lendemain, 20 et 40 ans. Puis alors après, bon, on peut quand même prendre un peu le large, voir ça de plus loin, disons. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de traces. Soit il a brûlé tous les témoignages, toute sa correspondance, Ce qui implique qu'il a peut-être aussi été contraint de le faire, ou du moins par prudence, étant donné les relations qu'il avait avec des femmes de pouvoir. Vous ne pouvez pas éventuellement être quand même dans l'intimité de celle qui va devenir l'impératrice des Français et laisser des traces de vos agissements. Je ne crois pas que ce serait raisonnable, surtout qu'on pouvait disparaître d'un jour à l'autre. Non, la seule trace alors biographique que j'ai trouvée, qui n'a pas été à mon avis suffisamment exploitée par les biographes de Denon, parce qu'il en a eu de sérieux, c'est la longue liaison qu'il a eue avec sa comtesse vénitienne quand il est à Venise. C'est une femme qui s'appelle Isabelle Albrizzi, qui était comtesse de son état. Comtesse curieuse, parce que c'est elle qui tenait le salon le plus libéral et probablement proto-révolutionnaire de l'Italie, donc comme tel suspect. Chateaubriand parle d'elle, d'ailleurs. Elle est l'amie de Byron, notamment. Il a eu avec elle une liaison indubitable. Et alors, ce qui est curieux, c'est le ton de cette correspondance pendant toute sa vie. Ils se sont écrits toute leur vie. Sur le ton suivant, par exemple, vous allez voir, c'est à la fois tendre et passionné et détaché. Il lui écrit à un moment donné, il lui revient d'Égypte, il lui dit « Bon, toi, tu as fait un fils de ton côté pendant mon absence. » Elle s'est mariée, elle a fait un fils. « Moi, j'ai mon livre à finir. Nous avons fait tous les deux ce qu'il y avait de raisonnable à faire. »
Vous parliez de la version pornographique de Point de lendemain, qui semble-t-il peut lui être, avec une certaine certitude, attribué.
Mais on lui attribue parce qu'il a publié, ça on le sait, des dessins.
Voilà, alors c'est sur des dessins que je voulais vous... Il y a donc aussi les gravures priapiques. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'était quelqu'un qui sacrifiait finalement au goût de l'époque, ou bien est-ce qu'il avait des obsessions personnelles dans ce domaine
Je ne crois pas, parce que j'analyse ces dessins, ils sont très, 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 très originaux. Ils ne sont pas du tout pornographiques, justement. Ils sont plutôt détachés et ironiques. C'est quelqu'un qui a, je crois, même la version pornographique de Point de lendemain, qui s'appelle La nuit merveilleuse, qui est plus bâclée que le texte lui-même, qui est canonique. Ce n'est pas pornographique, comment dire, obsessionnel. Il y a toujours une ironie, une sorte de détachement. Je crois que c'est ça, d'ailleurs, même chez Sade, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte à quel point Sade est plein d'humour, plein d'un détachement qui feint la frénésie pour mieux montrer la relativité de ces choses. Ce sont des gens très libres, qui ne se noient dans rien, et pas du tout non plus dans le sexe, comme le font parfois encore nos contemporains.
Est-ce que la fin de cette vie de Vivant Denon, quand il habite Quai Voltaire et qu'il a le Gilles de Watteau en face de lui, et qu'en même temps il a vu son grand rêve du Louvre se défaire, puisqu'il a fallu rendre les œuvres,
oui.
Est-ce que
même
c'est vécu comme une défaite? Est-ce que c'est une fin de vie mélancolique?
Mais non, il ne manifeste pas la moindre mélancolie, parce que ses visiteurs en témoignent, il reçoit beaucoup de monde, des étrangers surtout, bien sûr. Ce sont des étrangers qui vont, pas des Français, ce sont des étrangers qui vont venir voir Denon à Paris. Lady Morgan, une Irlandaise avec laquelle, comme par hasard, a-t-il lu les rapports plus intimes avec elle? Bon, ça, il est âgé déjà, mais enfin, pourquoi pas. Qui décrit le mieux sa collection et sa conversation. C'est une Irlandaise qu'il a choisie pour se livrer à la postérité. C'est assez drôle, quand même. Pourquoi une Irlandaise? On peut comprendre. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, la police, c'était celle qu'il fallait. Voilà. Et puis on venait le voir d'Italie, puis on venait le voir d'Allemagne, etc., pour voir sa collection, qui était extraordinaire. Et non, on a peu de documents sur lui à la fin de sa vie. On sait comment il vivait, qu'est Voltaire. Bizarre. De quoi était formé son appartement, quelles étaient ses occupations. Il allait voir. Il s'est déguisé en amateur d'art. Il était tellement compromis dans cette affaire que le coup de génie, ça a été de se déguiser. Alors, les témoignages, c'est comme si c'était un homme aimable qui s'intéresse à l'art. Il s'est déguisé, c'est pour vous répondre, il s'est déguisé en amateur d'art. Voilà. Comme ça, on lui a foutu la paix.
Il faut dire que là, vous parliez tout à l'heure de la correspondance avec Napoléon et de son insolence. Là vous venez de citer Voltaire. La correspondance avec Voltaire, dont vous donnez de larges extraits, est extraordinaire et d'une insolence. Enfin, que vous analysez très, très finement. Mais c'est prodigieux. Si on veut savoir ce que c'est que l'insolence, il faut lire ça.
Quoi. Absolument. Vous remarquez comme Voltaire est tendre avec lui.
Oui.
Comme Voltaire aime ça, au fond.
Oui.
Il aime l'insolence.
Il fait comme s'il ne
remarquait
pas.
Voltaire aime la liberté d'esprit, oui.
Une dernière question, oui.
Oui, je me suis posé la question, je ne sais pas, peut-être on a tendance à réinterpréter un peu lorsque l'on lit les auteurs, mais est-ce que vous ne donnez pas une clé un petit peu aussi de Philippe Solers en parlant de Vivant Denon, en particulier quand on repense à votre premier ouvrage, qui je pense que vous avez un peu renié pendant un certain temps, qui était écrit dans cette langue, c'est une langue pointue, très, très 18e siècle, et puis qui était un peu proche, au fond, finalement, de l'ouvrage de Vivant Denon, enfin, cette idée d'initiation par une femme plus âgée. Est-ce que, je dirais, il n'y avait pas cette fascination? Alors, est-ce que ça existait déjà? Vous le connaissiez déjà à 20 ans, enfin, quand vous avez écrit votre premier livre, ou est-ce que ça a été une redécouverte par la suite d'une certaine proximité?
Oui, mais j'avais pas lu le texte de Denon. Il faut croire qu'il y a des expériences qui, dans le temps, communiquent. Enfin, je veux dire, on ne vit pas... Il y a des expériences parallèles. Les gens découvrent des choses. Ça serait drôle d'envisager la vie humaine comme ça, comme des aventures où certains tombent un petit peu sur le même récif ou sur le même continent. Le livre de moi, si je peux citer un livre de moi, qui est alors là, lucidement un parallèle avec Denon, c'est un petit livre qui s'appelle Les Folies Françaises, qui raconte une histoire entre un père et sa fille, etc. Et là, je suis très conscient de ce que je fais. C'est-à-dire que si vous lisez dès la première phrase, vous voyez que c'est absolument dans le ton, mais pour raconter tout à fait autre chose. Il y a ce ton-là qui, à mon avis, est le français, si cette langue persiste. Porté à son maximum d'efficacité. Voilà. On peut le démantibuler, ce que je n'ai pas manqué de faire, on peut le triturer, on peut le sonder. Vous savez que j'ai écrit sur Artaud. Mais il y a là quelque chose qui. Enfin, dont les Français ne sont pas assez conscients, je crois. Il y a une sorte de ligne d'horizon stable. Vous ouvrez le Candide de Voltaire, ça n'a pas une ride. Vous pouvez l'appliquer immédiatement à la situation actuelle et vous moquez de tout en fonction de ça. Voilà. Ça a moins vieilli que Hugo, si vous voulez. Ça a moins vieilli que le romantisme. Dans la langue, l'économie des moyens et droit au but. Voilà. Aujourd'hui, il s'appelle indubitablement le musée du Louvre. D'où mon cavalier du Louvre. Mais il s'est d'abord appelé musée national. Sous la Convention. Puis alors, il y a une lettre invraisemblable de Cambacérès, qui est un drôle de type d'ailleurs, qui visite le musée, et Napoléon, en 1801, vient le visiter à 6h du matin, avec Joséphine, qui l'a sorti du lit exprès, pour voir les antiques et tout ça. Et à ce moment-là, il voit génie militaire de Napoléon, il voit que c'est quelque chose à l'art de soit qui sert sa propagande mondiale, soit qui est... Il comprend que c'est vraiment un truc profond. Et donc, il demande à ce que ça s'appelle Musée Napoléon. Voilà, ça s'est appelé Musée Napoléon, pendant longtemps. Puis, Napoléon est tombé. Alors, il y a eu Louis XVIII. Donc, Denon, avec un cynisme parfait, un pragmatisme, un opportunisme, parce qu'ils s'en foutent enfin, que ça s'appelle Napoléon National. Ouais. Il l'appelait Musée Royal du jour au lendemain. Ce qui lui importait, c'était de continuer son exposition des primitifs italiens, puisqu'il est le premier à avoir compris que ces tableaux qu'on cachait partout étaient de la plus grande importance pour son histoire de l'art. C'est-à-dire, la notion de musée, ça consiste à concevoir des perspectives, des relativismes, à ne pas avoir tout le temps la même image devant les yeux, comme à la télévision, vous comprenez. Donc il faut mettre de la profondeur. Et d'ailleurs, les peintres qui vont suivre, ne serait-ce que Cézanne lui-même, plus tard, vont comprendre que c'est en relativisant la vision, c'est-à-dire par le musée, parce que sinon vous pouvez pas être partout à la fois, que vous pouvez faire de la création. Vous pouvez pas vous passer de savoir comment machin à telle époque ou tout le monde peignait. Bon, voilà, c'est la relativisation de la représentation. Il est très conscient de ça. Donc Musée Royal, pourquoi pas. Puis alors ça c'est voilà, changé de nom. Puis aujourd'hui, ben, vous appelez ça le Louvre. Comme on l'appelait du temps d'Henri IV ou de Philippe Auguste, etc. Vous voyez comme c'est curieux les appellations. Mais c'est devenu un musée. Bah, écoutez, s'il y a beaucoup de monde dans ce musée, on ne sait pas ce qui en sort, probablement des tas d'illusions, mais peut-être parfois un effet de vérité spécifique. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, vous savez, il y a l'anecdote, j'ai écrit un livre sur Cézanne qui doit être là quelque part. Et Cézanne fait subir des séances de pose à Ambroise Vollard, qui sera son marchand. Et alors, c'est 115 séances. Alors, c'est vraiment épuisant. Puis un jour, il s'arrête et Vollard lui dit « Mais vous n'avez rien mis là, mes mains sont inachevées. Qu'est-ce que vous allez mettre comme couleur là? C'est pas fini ?» Le problème de savoir quand un tableau est fini. Et Cézanne lui répond ce mot que je trouve admirable. Il dit « Écoutez, oui, c'est vrai, j'irai voir cet après-midi au Louvre ce que je peux faire pour vous. À faire mon marché. » Donc c'est pas la main qui est là, c'est la main à travers toute la peinture. Attention. Le pavillon de Nantes, c'est au 19e siècle. Vous avez l'entrée ancienne du Louvre. Si vous avez visité le Louvre à cette époque, vous entriez par le pavillon de Nantes. Voilà. C'est au 19e siècle. Mais il est resté, vous savez, je suis le premier, je crois, à signaler que sa tombe est au Père Lachaise. C'est étrange parce qu'elle est vraiment très visible. Hein, il y a une statue de Cartelier, qui est un bon sculpteur d'ailleurs de l'époque, 1826. Et il est là, très, sur sa tombe, très, très gentil. Elle est en face de la tombe de Chopin et c'est au Père Lachaise, 10e division, ça s'appelle Chemin de Nantes. Voilà, hein, voyez. Donc il a été toujours considéré comme un personnage important, mais méconnu du public. J'espère que voilà, on va faire sa découverte maintenant. Donc c'était le fondateur du Louvre, il fallait bien l'inscrire quelque part. C'est lui qui l'a fondé, donc on peut pas purement et simplement l'effacer de l'histoire, c'est pas possible. Et maintenant, vous entrez maintenant par la pyramide et vous avez l'escalier roulant. Et vous entrez par Sully ou par Denon. Sully, bon, les Français savent plus qui est Sully, mais enfin, quand même, parce qu'on ne peut pas supprimer non plus Sully ou Henri IV. Vous voyez, pas...
Ben voilà, il faut écrire un livre sur Sully. Pour... Autre question.
Et dans les savants qu'avait amené Napoléon à l'Égypte, oui. Quelle était la place de Denon là?
Le farfelu, puisqu'il était dessinateur et pas savant. Donc il avait contre lui, en somme, le préjugé de l'armée devant ce vieux type de 51 ans qui n'arrêtait pas de dessiner, parce qu'on vient pour se battre, on ne vient pas pour dessiner, avec un respect. Parce que les soldats, c'est très beau, les soldats lui servent de table. Il n'y a rien. Hein. Donc les types se donnent leur dos pour qu'ils puissent dessiner. Les savants, vous connaissez l'histoire, enfin, c'est Chaptal, c'est Berthollet, tous les grands savants de l'époque, qui ont fait eux aussi un ouvrage, mais qui a paru beaucoup plus tard, en trois volumes, c'est vraiment le rapport des savants. Mais Denon les a en quelque sorte court-circuités, il a publié avant son livre qui a été un best-seller. Alors, c'est un peu comme si aujourd'hui les universitaires se plaignaient qu'on les ait court-circuités sur leur terrain. C'est mon rôle, ça.
Alors, s'il n'y a plus de questions, on peut rappeler que donc ce livre s'appelle Le Cavalier, que le premier livre auquel il fait allusion tout à l'heure ça s'appelait Une curieuse solitude, on le trouve encore, que le dernier livre, enfin le plus récent, pas le dernier, s'appelle Le Cavalier du Louvre, Vincent Denon, Les œuvres de Vivant Denon, on peut les lire aussi et les trouver. Alors, Le Voyage en Égypte, Le Voyage en Sicile, pardon, a été réédité récemment au Promeneur. Vous disiez que Point de Lendemain se trouve dans plusieurs collections de poche, dans la collection Folio, dans...
En Pléiade.
Dans différentes collections très... Enfin, Pléiade, c'est pas très accessible. Folio, ça l'est davantage. Folio. Et je crois que Le Voyage en Égypte aussi a été réédité récemment, peut-être dans une collection assez luxueuse. Enfin, il faut surtout lire Point de Lendemain, quoi.
Il faut tout lire. Il y a un choix de texte, il faut le signaler dans la petite revue, la petite collection Bleu Marine, comme
dans
la librairie, qui est parue au Seuil, et qui s'appelle L'École des Lettres, je crois. Où vous avez des Point de Lendemain intégrale version 1812, des extraits très significatifs du voyage en Sicile, et des extraits très significatifs aussi, avec une bonne présentation du voyage dans la basse et la haute Égypte. C'est un petit livre qui ne coûte pas cher, qui est vraiment une merveille. Je ne sais pas si vous voyez quelle est cette collection, mais elle est très utile parce qu'elle, voilà, encore un signe d'époque, c'est une republication de classiques systématiques. Et c'est très pratique parce que je crois que le moment est venu de s'intéresser moins aux nouveautés, à part la mienne, qu'aux classiques.
Merci Philippe Solers, à bientôt. Et vous allez signer naturellement les livres qu'on vous présentera.
Merci.